France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Hardy Dutronc, féminin, masculin. Épisode 1, une chanteuse classique.
Je recommence, moi.
Oui.
Il y a quelques années de cela, on voyait beaucoup de monde dans les transports en commun lire cet essai de l'auteur américain John Gray qui s'appelait « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». C'était plutôt des femmes d'ailleurs qui le lisaient, car on sait qu'il y a davantage de bibliothèques sur Vénus que sur Mars, tous les astronomes vous le diront. Françoise Hardy a peut-être lu ce livre également, étant donné son goût pour l'influence des planètes sur notre personnalité, mais le plus probable est qu'elle l'ait dédaigné. Elle n'aurait pas dit, elle, que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, tout simplement parce que c'est un cliché, et Hardy se voulait une astrologue bien plus subtile et complexe que cela, capable par exemple d'attribuer à des béliers comme Serge Gainsbourg le signe soi-disant féminin de Vénus.
Vous êtes né à une heure forte de Vénus, ça veut dire que vous êtes entre autres vénusien, moi je vous l'annonce. Vous êtes entre autres vénusien.
Vénus,
et quand on est très marqué par cette planète... Quand on est très marqué par cette planète, on s'ennuie quand on n'est pas amoureux. Et je voulais vous demander si vous ennuyez en ce moment.
La réponse de Serge à son amie Françoise était que oui, il s'ennuyait, il était devenu trop lucide pour aimer. Mais revenons une minute à John Gray, l'auteur de cet essai sur les hommes et les femmes, car c'est en pensant à ce livre que j'ai eu l'idée d'une série de salles des archives sur le couple Hardy-Dutronc. Dans ses livres de développement personnel, Gray expliquait en effet ce qui, selon lui, différenciait les hommes et les femmes. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, c'était l'idée que chacun des deux sexes a une vision différente de son rôle dans le couple et que cela crée des incompréhensions. Par exemple, dit Gray, l'homme aurait souvent besoin de silence et de se retrouver, je cite, « dans sa grotte », c'est-à-dire en retraite à l'intérieur de lui-même. Or, la femme prendrait ce retrait intérieur pour un manque d'attention, voire pour de l'hostilité, alors qu'il s'agit seulement d'une demande de solitude. De son côté, la femme attendrait, toujours selon Gray, des petits gestes d'amour au quotidien, un compliment de temps en temps, une initiative d'ordre ménagère, qu'il passe l'aspirateur par exemple sans qu'elle ait à lui demander. Problème, l'homme considérerait comme une meilleure preuve d'amour d'offrir un beau cadeau de temps en temps, un bijou par exemple, ou alors de faire des réparations dans la maison, une tâche qui correspond à son genre. Mais vous allez me dire, quel rapport entre John Gray et l'un des couples stars de l'histoire de la chanson française ? Eh bien, je repensais récemment à ce livre, dans le train, en regardant les ouvrages que lisaient les femmes. Dans leurs mains, des essais et des romans féministes avaient remplacé le best-seller de John Gray, tout cela en une grosse décennie. De toute évidence, le monde avait changé, les relations entre les hommes et les femmes avaient évolué. C'est alors que je me suis souvenu d'une archive en particulier que j'avais écoutée au hasard de mes déambulations dans la salle des archives. C'était Françoise Hardy qui parlait de Jacques Dutronc et il était question de couple, de privé, d'intime et en même temps de toute la société. Cette archive, pourtant banale, m'avait intrigué sans que je comprenne exactement pourquoi. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est justement ce que dit sa banalité qui m'avait intrigué. Écoutons-la ensemble.
Moi, je l'ai toujours connu extrêmement calme, extrêmement silencieux, très homme d'intérieur, finalement. C'est-à-dire s'occupant beaucoup des maisons. On a une maison à Paris, une maison en Corse, il s'en occupe beaucoup. C'est un rêve de l'avoir dans une maison, parce qu'il sait tout faire. Il sait réparer les machines à laver, il sait peindre, il sait... quand il y a n'importe quoi, des fuites ou des choses comme ça. autant de choses alors qu'il... Moi, vraiment, je suis complètement perdue. Il sait s'occuper de tout ce qui est concret. Il aime s'occuper... du jardin, on a la chance d'avoir un petit jardin à Paris, alors quand il y est, il s'occupe beaucoup du jardin, quand il est en Corse aussi, il passe son temps à s'occuper du jardin, c'est ce qu'il aime, quoi. Il aime la nature, les plantes, les animaux.
Un Dutronc bricoleur et silencieux, parangon de la masculinité, tandis que Françoise Hardy dit ne pas savoir planter un clou, comme c'est supposé être le cas pour une femme. Eh bien voilà, c'était cela. Si cette archive m'avait intrigué, c'est pour ce qu'elle disait de la banale répartition genrée des rôles dans un couple, y compris chez les stars. Or, on sait que ce sont notamment les stars qui fixent les manières de vivre, car ce sont des modèles pour la société entière. J'avais toujours pensé que Françoise Hardy et Jacques Dutronc étaient des artistes qui vivaient librement, qui avaient inventé un couple moderne, loin des conventions, un couple post-68. Mais en réalité, je me rendais compte qu'ils étaient plutôt un couple « à l'ancienne », entre guillemets, traditionnel malgré les apparences, ayant intégré les codes de l'amour des années 40 et 50. D'ailleurs, l'un et l'autre s'étaient totalement désintéressés des événements de mai 68. Cette jeunesse n'était pas la leur. Finalement, ils n'étaient pas moins normés que la plupart des Français. Ce couple s'aimait de toute évidence, malgré les difficultés. Ils étaient tous les deux beaux et connaissaient un très grand succès. Mais ils étaient également tous les deux mélancoliques. Et tout à coup, je me suis demandé, et si ce qui les avait rendus mélancoliques, c'était autre chose que la fatalité de l'amour qui finit trop souvent malheureux ? Est-ce qu'ils ne s'étaient pas plutôt retrouvés piégés par ce qu'on attendait d'eux en tant que femme et en tant qu'homme ? Piégés par le bruit ambiant de ce qu'on leur demandait d'être et de faire, piégés par leur image aux yeux des autres, lui, l'amuseur, le tonton sympa à qui on ne la fait pas, et elle, la princesse élégante cherchant le grand amour. Et si c'était leur rêve, ou plutôt nos rêves à nous tous, qui les avaient rendus mélancoliques ? C'est cette question qui nous guidera tout au long de cette série, dans la vie amoureuse et musicale de Françoise Hardy et Jacques Dutronc.
Hardy, Dutronc, féminin, masculin.
On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver.
Une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée d'émission, Lily Cornaer.
Alors voilà le programme en détail. Durant nos 6 épisodes, nous allons revenir sur ce couple d'un temps pas si lointain, pas si différent d'aujourd'hui. Nous ferons aussi un détour par l'évocation de Jacques Lanzmann, génial parolier de Dutronc lors du 3e épisode, et nous parlerons de leur fils, Thomas. Mais Dutronc et Hardy vont rester au centre de notre récit, nous ferons leur portrait à l'un et à l'autre, nous dirons ce qu'ils ont apporté sur le plan de la musique, nous parlerons aussi de quelques chansons, et nous commençons aujourd'hui avec les jeunes années de Françoise Hardy. Bertrand Dical, vous êtes journaliste, spécialiste de musique et vous avez bien voulu venir nous accompagner pour commenter les archives des 2 premiers épisodes. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander votre rapport personnel à la musique de Françoise Hardy ?
Françoise Hardy, elle m'est apparue dès le départ comme une artiste double. Elle faisait partie des jeunes années yéyé que je n'avais pas eu la chance de connaître et dont Françoise Hardy était une des étoiles. Et en même temps, j'avais la chance de vivre dans une époque où Françoise Hardy sortait des albums qui étaient pop et dont dans rock and folk, dans les journaux qu'on lisait à l'époque, dans nos conversations de lycée, on disait « elle est au niveau des Anglais ». Et quand on disait « elle est au niveau des Anglais », ça voulait tout dire.
Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a marqué l'histoire de la chanson française ?
Oui, et elle a non seulement marqué l'histoire de la chanson, elle a marqué l'histoire du métier de la chanson, elle a marqué l'histoire peut-être d'une part de l'imaginaire, c'est-à-dire cette femme perpétuellement malheureuse en amour, de la première à sa dernière chanson, de sa première à sa dernière apparition, elle est malheureuse en amour.
C'est l'histoire d'une jeune fille née le 17 janvier 1944 à 21h30. Françoise Hardy est Capricorne, ascendant Vierge. En 2002, elle a expliqué, comme si elle faisait son autoportrait, que le Capricorne était un signe déconnecté du monde extérieur et portait à une grande démesure rentrée. La Vierge, poursuivait-elle, ce n'est guère mieux, comme son nom l'indique, elle s'effarouche facilement. Et elle ajoute « Je sors difficilement de mes 4 murs, ma maladresse et ma timidité m'ont toujours fait fuir les mondanités. » Cette timidité, alliée à un grand désir de créer, on l'entend dans l'une des premières archives de Françoise Hardy, celle du Petit Conservatoire de Mireille, une émission de variété qui prenait la forme d'un cours de chant et à laquelle elle avait participé.
Voyons, mademoiselle... Il y a longtemps, je ne vous ai pas entendu. Comment vous appelez-vous déjà ?
Françoise Hardy, pour le moment.
Attends, papier.
Françoise Hardy.
Françoise Hardy. Et vous êtes toujours dans le fond de la classe avec votre petite guitare. Vous attendez patiemment. Pourquoi ? Est-ce que vous avez l'impression que ça va mieux ?
Non, pas du tout. Enfin, au point de vue interprétation, j'ai l'impression que je n'ai fait aucun progrès. Point de vue composition, maintenant, je pense que j'ai fait quand même quelques progrès.
Vous avez l'impression que la musique, ça va mieux?
Oui, mais pas l'interprétation.
Pas l'interprétation.
Je sais pas chanter, j'ai pas de voix. Puis je sais pas m'accompagner non plus, je chante pas en mesure. Enfin, c'est terrible.
Ça va pas du tout, alors?
Pas du tout.
Et cependant, il y a quelque chose de même assez magique. Vous persistez. Montrez-moi ce que vous êtes en train de travailler. Quel âge avez-vous maintenant?
17 ans et demi, je vais avoir 18 ans.
Bon. Et ça fait comment?
Qu'elle était jolie.
Plus fort.
Bertrand Dical, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette archive de Françoise Hardy, toute jeune?
Alors, il y a deux choses. Elle parle d'elle, et ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est une femme qui sera toute sa vie timide, introvertie, tout ce qu'on a dit, mais qui en même temps a toujours parlé d'elle et toujours parlé de sa timidité. Quelqu'un qui vous dit « je suis extrêmement timide », c'est pas forcément quelqu'un d'absolument uniquement timide. Et d'autre part, il y a le fait qu'elle est, à l'époque, un peu à part, mais typique de son époque en même temps. Dire sur cette archive, elle a à peu près exactement le même timbre que Marie-Josée Neuville, la collégienne de la chanson, qui est la première autrice, compositrice, interprète de moins de mineurs, a vraiment frappé le public à la fin des années 50. Elle est très influencée par Georges Brassens. Musicalement, ce que fait Marie-Josée Neuville ressemble beaucoup à Georges Brassens. Et c'est elle qui fera, par exemple, cette fameuse chanson qui s'appelle « Le monsieur du métro », qui est une chanson sur le harcèlement sexuel dans le métro.
Parmi la foule automatique dans le métro, il me tenait d'affreux propos pornographiques auxquels rien je ne comprenais.
Françoise Hardy, elle a un peu cette voix et en même temps, elle est complètement influencée par le slow rock anglo-saxon, par des gens comme Cliff Richard, comme les Everly Brothers. Cette musique anglo-saxonne, plutôt lente et romantique, c'est pas le rock énervé des garçons.
Donc on entend qu'elle a le ton de son époque au moment de l'archive, et elle va évoluer dans son ton, et elle sera toujours finalement assez en phase, musicalement, avec l'époque dans laquelle elle vivra.
Absolument. Et c'est ça qui est singulier avec toute la carrière de Françoise Hardy, c'est que toute sa vie, elle sera très attentive à l'actualité, très attentive aux nouveaux artistes, très attentive aux nouveaux sons. Elle a travaillé avec beaucoup d'arrangeurs, beaucoup de compositeurs, certains qui sont devenus célèbres, je sais pas, Gabriel Yared, d'autres qui sont restés dans l'ombre, parce qu'elle a entendu sur un disque très discret quelque chose de très singulier qui lui semble résumer le moment.
Alors, on entend déjà dans cette archive à la fois sa voix totalement angélique, sa franchise dans la façon de répondre à Mireille, sa mélancolie qui est perceptible. Est-ce qu'on entend déjà son style musical dans ses premières notes?
Oui, il y a quelque chose. Alors, il y a deux périodes dans Françoise Hardy. À un moment, dans les années 70, elle va arrêter de composer, mais parce qu'elle trouvera que son langage compositionnel, son langage mélodique est un peu trop limité. Mais elle a réellement, et c'est réellement une compositrice très anglaise, vraiment très très anglaise.
Qu'il restera.
Et qu'il restera toute la période pendant laquelle elle compose. Et puis, pour ses textes, elle écrit à la première personne du singulier.
Alors, c'est une autodidacte. Est-ce qu'elle apprend la musique un peu avec Mireille, ou ça, c'est juste un show, finalement, qui n'est pas très important dans sa carrière musicale?
Alors, le petit conservatoire de Mireille, c'est un tremplin, mais c'est aussi un petit conservatoire. C'est-à-dire que Mireille, il faut pas oublier... Alors, aujourd'hui, on se souvient de Mireille comme ce personnage du petit conservatoire, parce qu'on a des archives, mais faut pas oublier que Mireille, dans les années 30, c'est une révolutionnaire, c'est une compositrice et interprète. Et Mireille, il faut bien réaliser que dans les années 30... elle chante des chansons dans lesquelles elle dit « va te faire l'enlair ». Aujourd'hui, ça nous paraît, mais bon, c'est le fuck de l'époque.
Aujourd'hui, ça passe bien.
Aujourd'hui, ça passe très bien. Si un homme politique dit « va te faire l'enlair », il va paraître beaucoup plus ridicule qu'impoli. Mais Mireille est une des premières chanteuses à incarner une parole jeune, une parole non adulte, une parole non bourgeoise. Et c'est pour ça que Mireille, elle est si importante pour des artistes comme Françoise Hardy, comme Souchon, comme Dick Angarn, comme parce qu'elle ouvre la porte à la jeunesse en disant « ça c'est intéressant ». Et soyez vous-même.
Donc elle lui apprend quand même quelque
elle
chose.
Elle lui apprend vraiment pas mal de choses et elle lui donne cette visibilité. Si on a cette archive, c'est parce que c'est passé à la télé. Mireille trouve intéressant de faire passer à la télé cette fille qui dit qu'elle ne sait pas chanter, qu'elle sait à peine composer, qu'elle sait pas s'accompagner, que ce qu'elle fait est très médiocre. Eh ben on va vous écouter quand même. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas médiocre du tout.
Puisque ces deux couples dont nous parlons dans cette série, remontons à la génération du dessus pour découvrir celui que formaient les parents de Françoise, Madeleine et Étienne. Eh bien, c'est un couple qui n'en est pas vraiment un. Lui, fils d'une famille aisée de Blois, est déjà marié lorsqu'il rencontre Madeleine. Cela se passe dans la rue, il la suit depuis la gare Saint-Lazare jusqu'à la gare du Nord, avant qu'elle ne lui permette de lui adresser la parole. Elle, c'est donc Madeleine, aide-comptable à mi-temps, femme de caractère, qui avait, selon Françoise, je cite, « un gros problème avec les hommes ». C'est ce que Françoise avait confié au journaliste Gilles Verland, je cite encore. « Ma mère n'a jamais pu passer une nuit avec un homme. Comme sa propre mère, elle était frigide et castratrice. » La grand-mère de Françoise est en effet décrite par la chanteuse comme un monstre d'égocentrisme et de bêtises qui rabroue sans cesse son mari, ainsi que le rapporte Yann Plougastel dans sa biographie croisée de Dutronc et Hardy. Il n'y a donc pas d'image positive du mariage dans la jeunesse de la chanteuse. Son père ne leur rend visite à sa sœur et à elle que quelques fois par an, et son absence est douloureuse. Et puis il y a un secret. Dans son autobiographie « Le désespoir des singes », Françoise Hardy a raconté comment son père est mort, à 80 ans, assommé par un jeune prostitué qu'il avait fait venir chez lui et qui voulait lui extorquer de l'argent. Un non-dit de plus dans cette famille, qui n'en était pas vraiment une, la part d'homosexualité refoulée et interdite de son père, qui l'avait conduit à cette mort-là. Rien ne fait modèle, décidément, dans les relations de couple qui entourent la jeune Françoise, et elle se réfugie dans une vision idéalisée de l'amour. En fait, le grand amour de sa mère, ce sont ses filles. On l'écoute en interview avec Françoise, dans l'émission Bravo Chérie, en 1963.
Est-ce que vous la guidez dans son métier ?
Absolument pas. Absolument pas. Je trouve qu'elle... D'ailleurs, ça a toujours été un de mes principes. Elles doivent prendre leur responsabilité. Elles les ont plus toutes petites, déjà toutes petites, enfin toutes petites 100 ans, enfin pas un an bien sûr, mais enfin quand elles ont été plus grandes, elles ont toujours pris leurs responsabilités.
Et est-ce qu'elles vous demandent votre avis quand elles composent une chanson nouvelle?
Mon avis, quand elle était à la maison, oui, bien sûr. Vous avez dit, ah, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Michel qui venait à la rescousse.
Même, je me rappelle que souvent, c'était quand t'étais dans ton lit déjà.
Oui, c'était quand t'étais dans mon lit, en fait, avant de dormir.
Oui, vous vouliez dormir. Moi, je m'amenais avec ma guidage, mais avant de dormir, pour que t'entendes ça.
Vous avez raison, c'est la pensée du soir qui est la meilleure, souvent. Et elle vous donnait son verdict le matin, le lendemain matin?
En général, maman a un verdict souvent très gentil, ma sœur est beaucoup plus difficile.
Et alors, qu'est-ce qui a raison, votre mère ou votre sœur?
Un peu les deux, oui. Soyons normands jusqu'au bout.
Vous voyez, c'est Lorraine normande. Mais voilà une nouvelle race qu'il fallait lancer. Merci, Françoise Hardy.
Bertrand Dical, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette archive mère-fille, avec ce ton un peu de petite fille qu'on entend chez Françoise Hardy?
C'est un peu malsain, mais c'est pas non plus très inattendu. Enfin, je veux dire, ce que dit Françoise Hardy, et ça, c'est vraiment spectaculaire, parce qu'elle a commencé à le dire avant la mort de sa mère, dans des interviews, elle le raconte dans Le désespoir des singes, ses mémoires, et qui est quand même un livre particulièrement, enfin, dans lequel elle délivre un portrait des femmes de sa famille et de son père, qui est particulièrement atroce. Mais il y a quelque chose qui est réellement intéressant, c'est-à-dire qu'elle est grosso modo écrasée par le patriarcat, par un patriarcat absent, avec des principes extraordinairement genrés, c'est-à-dire qu'un homme a raison, sauf qu'il n'y a pas d'homme. Il y a des choses qui sont interdites aux filles, mais on ne dit même pas aux filles ce qui est interdit. Françoise Hardy raconte, dans Le désespoir des singes, la première fois qu'elle a un rapport sexuel avec un garçon, elle est étudiante, elle est à la Sorbonne, elle n'est pas encore percée dans la chanson. Elle est toute jeune, elle va à l'hôtel avec un garçon et très naïvement, elle raconte ça à sa mère. Parce qu'elle ne sait même pas qu'il ne faut pas le raconter à sa mère. Parce que sa mère ne lui a jamais rien raconté, sa mère ne lui a jamais rien expliqué. Donc, elle vit vraiment dans l'oppression patriarcale sans les hommes. Et c'est ça qui est fascinant.
Est-ce que le père absent, il est présent dans les chansons? On a l'impression pas tellement, c'est plutôt les petits amis qui sont là, l'amour déçu, mais la relation avec le père.
Il n'y a pas d'adulte dans les chansons de la jeune Françoise Hardy. Et dans la Françoise Hardy adulte, dans ses chansons, il n'y a pas d'enfant. Je ne veux pas être absolument catégorique, je ne connais pas par cœur tous les albums des années 70-80 de Françoise Hardy, mais je n'ai pas vraiment le sentiment qu'il y ait de la famille dans ses chansons.
Ton regard est triste, oh oh, si triste, et tu ne souris plus jamais, mais pourtant tu sais. Oh, oh, tu sais, il n'est pas de chagrin dont on ne guérisse. Alors, alors, souris, souris-moi.
J'ai l'impression que j'ai toujours eu une image de quelqu'un d'assez calme, d'assez sage.
Sage, oui.
J'ai toujours été, j'étais une petite fille sage, j'ai jamais été une petite fille ou une adolescente rebelle. Enfin,
Non. Même dans la tête?
Ah, dans la tête, c'est autre chose, mais sinon, dans l'attitude, dans le comportement, pas du tout.
Oui, mais alors pourquoi ça, justement? Pourquoi jamais de coup de gueule? C'est parce que vous êtes bien élevée?
Oui, c'est parce que j'ai eu un contexte d'enfance très très particulier. J'étais élevée en vase, mais quasi complètement clos, entre ma mère et ma sœur. Et ma mère était seule et se donnait un mal de chien. Et je voyais ça et j'avais qu'une envie, c'était qu'elle ait moins de mal, quoi. Enfin, en tout cas, j'avais pas envie qu'elle ait des difficultés supplémentaires à cause de moi. Donc, j'étais aussi sage. Enfin, j'étais ce qu'elle voulait que je sois. Qu'elle souhaitait que je sois. Ah oui, vraiment. Ça, je peux le dire maintenant.
Mais comment un succès si grand et si rapide est-il arrivé à cette jeune fille si sage, si peu distraite? Comment cette jeune fille bien élevée et timide, qui a grandi dans un 45 mètres carrés de la rue d'Aumale, dans le 9e arrondissement de Paris, s'est-elle retrouvée à son premier essai ou presque au firmament de la chanson, adulée, demandée sur toutes les scènes du monde, en Europe, en Afrique, au Brésil, aux États-Unis? Elle-même a toujours dit qu'elle avait eu de la chance. Le conservatoire de Mireille lui avait donné de l'assurance et elle s'est dit que pour ne pas avoir de regrets plus tard, il fallait qu'elle frappe à la porte de quelques maisons de disques afin de présenter ses chansons et puis on verrait bien. Après un premier échec, on lui propose un contrat dès sa deuxième tentative. Sur un critère un peu étonnant, elle le raconte dans cette archive.
Cette audition, donc, était la première de ma vie. C'était pas si mal passé que ça. Alors, ça m'avait encouragée à en passer d'autres parce que je me disais, si je passe une audition dans une maison de disques, peut-être que je pourrais enregistrer un disque. Et en fait, mon but à l'époque, c'était d'enregistrer un disque. Je ne voyais pas au-delà. Et ça m'a encouragée. Et c'est à partir de là que j'ai contacté d'autres maisons de disques et que je me suis retrouvée chez Vogue.
Et à Vogue, on vous a dit, c'est superbe, on cherche le pendant de Johnny Hallyday.
Au téléphone, j'ai téléphoné, je suis tombée sur le preneur de son de la maison Vogue, qui est resté un ami, qui accompagne Jacques à l'accordéon, depuis pas mal d'années, qui est en même temps bouquiniste, qui est André Bernot. Et donc, c'est André Bernot que j'ai eu à l'époque au téléphone, et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites comme chanson? Alors, je dis, mais je fais mes propres chansons. Alors, il me dit, écoutez, on cherche, comme vous disiez, le pendant féminin de Johnny Hallyday. Alors, si vous pouviez axer vos chansons sur un style un petit peu rock'n'roll, ce serait bien.
C'est pas mal quand même.
Comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour.
Alors, évidemment, la chance a un peu joué dans le parcours de Françoise Hardy. Mais surtout, il y a son talent, sa voix et sa présence. Elle compose tout de suite des mélodies qui plaisent, écrit des paroles qui résonnent avec les chagrins et les espoirs des adolescents des 60s. Sa première chanson sera son plus grand tube, un hymne de la variété des années 60, tous les garçons et les filles. Bien des années plus tard, elle revient sur les conditions d'enregistrement de cette chanson.
Le jour, moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Alors, Françoise Hardy, les mains sont propres maintenant ?
Oui, ça va.
Pourquoi vous voulez aller vous laver les mains pendant cette chanson ?
J'ai beaucoup de mal à réentendre cette chanson. Il y a des chansons anciennes que j'ai beaucoup de plaisir à réécouter, comme L'Amitié, par exemple. Mais celle-là, non, parce que c'est gnangnan, parce que derrière, c'est nul. J'aime bien ce qui, musicalement, quand même, se tient un peu. Et là, c'est vraiment, j'ai eu, comme je dis à chaque fois quand je parle de cette chanson, les quatre plus mauvais musiciens de la place de Paris. Okay. On a enregistré quatre chansons. L'horrible rythmique, moi qui n'avais jamais chanté de ma vie avec une rythmique, ni autrement d'ailleurs que dans ma salle de bain, plus les mix, on a fait ça en un après-midi, alors qu'actuellement il faut plus d'un mois pour faire quatre chansons.
Mais ceci dit, elle a drôlement bien marché cette chanson.
Ah oui, ça...
Vous en avez
hélas,
vendu...
hélas, je n'en ai jamais eu depuis qui ait mieux marché ou même autant.
Vous avez vendu 100 000 disques en une semaine.
Oui, mais on a fini par en vendre pratiquement un million, aussi
ouais.
bien en France qu'en Italie.
Et vous aviez que 17 ans.
Oui, c'est ça, 17-18.
Ouais. Et vous étiez encore étudiante en allemand.
Oui.
C'est fou quand même.
Quand elle se plaignait de ne pas avoir pu travailler correctement sur l'enregistrement de cette chanson, son producteur Jacques Volson disait, dans son style inimitable, qu'elle rende l'argent, c'est le seul titre qui en a gagné. Bertrand Dicale, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
Alors, le poète a toujours raison, comme dit le poète. Et Françoise Hardy, elle a raison. C'est affreux, cet arrangement. C'est-à-dire que en 62, elle fait deux passages télé où elle s'accompagne elle-même à la guitare. Et ça vaut 10 fois plus. Et c'est ça qu'on.
Et donc le public a mauvais goût parce que ça a tellement bien marché.
Non, le public a pas mauvais goût. C'est ce qu'on entend dans l'époque. Vous savez, il y a des chansons qu'on révère. Allez, je vais encore me faire un pote, mais quand on réécoute aujourd'hui certains claviers, certains synthétiseurs sur les chansons de Balavoine, on se demande comment on a pu aimer ça et on se demande comment on continue à les écouter avec des sons de clavier aussi pourris. Et elle a raison. Elle a des musiciens extraordinairement médiocres avec elle. Alors que elle rêve du son des Shadows. Elle rêve de ce son-là. Et là, elle a un pauvre son de balle de campagne dans un chef-lieu de canton, quelque part en Indre-et-Loire.
Si un jour, l'occasion faisait que vous soyez obligé de sacrifier votre vie privée à votre carrière, si vous aviez à choisir, est-ce que vous hésiteriez entre les deux ?
Oh non, j'hésiterai pas entre les deux.
C'est-à-dire ?
Je choisirais la vie privée, mais je pense que ça serait une grosse erreur, parce qu'il ne faut pas se limiter à la vie privée. Parce que justement, pour que la vie privée se passe bien, il faut qu'il y ait une échappatoire.
Oui, oui, heureuse mais méfiante, quoi. Prudente. C'est ça.
Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que la vie privée de cette génération d'artistes, elle se vit au grand jour. Elle se vit vraiment au grand jour. C'est-à-dire que tout le monde sait leurs histoires d'amour. Adamo
Dans
est le seul
les
à
copains,
réussir.
Tout est mis en scène.
Voilà. Oui, mais Adamo est le seul à réussir à cacher sa vie privée. Et c'est vrai que, par exemple, en 67, quand commence son histoire d'amour avec Jacques Dutronc, tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est visible. Des éditorialistes de l'époque disent que c'est un Olympe, que ce sont des jeunes dieux. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et Françoise Hardy est une de celles qui va réussir à garder la tête la plus froide le plus longtemps, ils n'ont plus une vie d'humain. Ils n'ont plus une vie qui ressemble à la vie de leur génération.
Dis Françoise, tu n'as pas une autre chanson à me montrer ?
Si tu veux.
On peut voir, hein ?
D'accord.
Ah, voilà la chanson.
D'accord.
On dit tant de mots sans y réfléchir, qu'on ne sait plus trop.
C'est donc une jeune fille presque comme les autres qui entre à toute vitesse dans la vie à peine sortie de l'enfance, simplement armée de sa guitare et de cheveux longs qu'elle laisse pendre sur ses épaules, à une époque où la laque et les chignons font encore le bonheur des dames. Elle a réussi dans la chanson de façon presque démesurée, sans désirer un succès si grand. Car ce qui lui importe vraiment, c'est d'aimer et d'être aimé. Il suffit d'écouter ses paroles pour s'en rendre compte. L'amour, elle va le trouver, bien sûr, mais est-ce bien celui qu'elle attendait ? Pour le savoir, il faut à présent faire une autre présentation, celle du garçon élu, Jacques Dutronc.
Dutronc, on essaye de faire de vous
personnage de Playboy. En fait, c'est quoi, Dutronc ?
Dutronc, c'est un chansonnier, souriant à la télévision, sympathique.
Qui dit chansonnier dit un peu clown, non ?
Ah non, pas spécialement. Guignol, mais pas clown.